BFM Business présente l'émission qui vous sort de votre boîte. Happy Boulot, le mag, Laure Clauzier.
Bonjour à tous et bienvenue dans Happy Boulot le mag. Cette semaine au menu, une boîte qui valorise la mobilité interne, un champion de ski et du télétravail pour les maisons de poupées. Ça va être varié. En première partie, on recevra la DRH de Naturalia. Est-ce qu'il faut être vegan et manger bio pour y bosser? Elle va nous expliquer ça. C'est Mélodie Lebarbanchon. Elle fait tout pour garder ses talents en interne. Le boss des boss et désormais consultant en réussite, c'est Edgar Gros-Piron, ancien champion de ski. C'est une des coqueluches des séminaires. On verra si il connaît enfin le secret d'un magnifique chiffre d'affaires. Et puis en dernière partie d'émission, vous travaillez confiné dans 20 mètres carrés, votre bureau et votre table à repasser. Enki vous propose un bureau correct pour 39€ par mois. Vous verrez comment c'est possible et si vraiment c'est possible. Allez, Happy Boulot, le mag, c'est parti.
BFM Business, Happy Boulot, le mag, l'exécutif de la semaine.
Et notre exécutive de la semaine, c'est Mélodie Lebarbanchon, DRH de Naturalia. Bonjour. Alors, bonjour. Naturalia, enseigne spécialisée dans la distribution de produits bio, ça appartient à Casino. Enseigne connue, depuis longtemps installée en France, avec une année 2019 incroyable, des ouvertures de magasins partout. On a l'impression que Naturalia, c'est un petit peu la marque sur laquelle on comptait pas trop, un peu alternative. Maintenant, c'est devenu presque un leader du marché. Changement complètement d'ossature, presque pour la marque. Comment on gère une évolution comme ça, hein?
Alors, c'est effectivement la petite marque qui monte dans la biospé. On a une très bonne année 2019, vous l'avez dit, avec 12% de croissance. Et l'année 2020 est à peu près sur le même trend, grâce notamment à l'activité essentielle que l'on est devenu à la faveur du premier confinement et depuis, avec une vraie croissance de 40%. Donc, on travaille notre image, on travaille notre marque et on travaille notre offre surtout et notre accueil client. Ce sont nos priorités au quotidien.
Vous êtes DRH, vous avez pris votre poste le 17 mars chez Naturalia. Tout le monde se souvient avec émotion où il était le 17 mars.
C'est ça.
Comment ça s'est passé, vos tout débuts dans une entreprise que vous n'êtes pas allé voir tout de suite?
Alors, c'est une intégration pour le moins originale. Donc, effectivement, je m'en souviendrai, et mes équipes aussi, je pense, puisque j'ai intégré un codir et pris en charge une équipe RH à distance. J'ai physiquement vu mon équipe peut-être deux mois et demi après mon arrivée dans l'enseigne. Bah, écoutez, c'est une intégration. Intégration en gestion de crise, je pense que c'est un excellent exercice pour tester une nouvelle boîte dans laquelle vous arrivez. Au bout d'une semaine, j'étais sûre d'avoir fait le bon choix. C'est un challenge au quotidien, puisque effectivement, on s'est retrouvé dans des situations personnel que l'on mélangeait aux situations professionnelles.
Mais des gens vous connaissiez pas, du coup.
Exactement. Donc, il a fallu mettre en place une animation, des rituels managériaux avec des points d'équipe tous les jours, par petite équipe aussi, puisque un département RH de 18 personnes, bah, ça s'anime aussi par thématique. Et tout ça s'est fait finalement assez naturellement avec des équipes à distance et qui ensuite sont revenues progressivement au siège à la faveur du déconfinement à partir du 11 mai.
Naturalia ouvre toujours des boutiques. Là, vous embauchez toujours ?
Exactement. Alors, pendant le confinement, on a eu à recruter 500 personnes. Donc, c'était mon premier challenge aussi, à la fois sur la partie réseau de magasins pour compenser un absentéisme dû aux premières vagues de Covid. Et puis, d'autre côté, servir la croissance et l'activité beaucoup plus forte sur nos magasins. Finalement, on a été très peu impacté par le côté Covid, mais plus par la suractivité. Et on est toujours dans cette dynamique d'embauche avec à peu près 150 personnes embauchées sur le mois de septembre, par exemple, qui a été un gros mois en termes d'intégration. On a à peu près le même trend sur le mois d'octobre. Donc, on est continuellement en croissance. Vous l'avez dit, on a ouvert une vingtaine de magasins l'année dernière, en 2019, et on a maintenu cette dynamique de croissance sur 2020, malgré la crise. Donc, ça s'accélère un peu en cette fin d'année pour pouvoir rentrer dans ces ouvertures de magasins. Donc, on a besoin de servir cette croissance avec des effectifs.
Qu'est-ce qu'il faut pour bosser chez Naturalia? Il faut absolument aimer le bio, il faut être vegan. Il faut rentrer dans quel type de profil?
Absolument pas être
on peut manger
un ayatollah
la
bio. On peut tout manger, on peut tout apprendre surtout. Ce que l'on va chercher chez nos futurs collaborateurs, c'est la petite étincelle, l'engagement à titre personnel, pas forcément dans la bio, ça peut se traduire de plein de façons différentes au quotidien. Des profils qui ont à cœur de travailler pour une enseigne qui est une entreprise à mission depuis le mois de juillet dernier, qui a des valeurs. Et en fait, ce que l'on va chercher, c'est ce partage de valeur. Alors, ça peut être très abstrait comme ça, mais concrètement, ce sont des gens qui ont un intérêt pour le client, un intérêt, pourquoi pas, une appétence pour nos produits, mais tout le reste, c'est-à-dire toute la partie formation, on le prend en charge dès l'intégration et de plus en plus en digital, puisque c'est notre gros axe de développement en termes de formation cette année, de digitaliser nos contenus de formation pour les rendre accessibles dès l'entrée du collaborateur dans l'enseigne.
Vous avez mis en place là des vidéos en interne pour valoriser vos collaborateurs. Ça veut dire que vous voulez favoriser la mobilité interne. Il y a un vrai enjeu de garder ceux qui sont aujourd'hui chez Naturalia. Pourquoi ? Vous avez peur qu'ils partent ?
Alors, on est effectivement confronté à un fort enjeu de fidélisation chez Naturalia. C'est la raison pour laquelle on a voulu mettre en avant ces parcours. C'est une forme de reconnaissance aussi pour nos collaborateurs qui ont évolué, qui ont 10, 15 ans d'ancienneté et qui sont passés par 3 à 4 métiers différents chez nous. Et on est confronté, comme l'ensemble des enseignes du retail, à un turnover malgré tout important. Donc, on a à la fois un enjeu d'attractivité pour les profils externes, leur montrer ce qu'on sait faire et ce qu'on sait bien faire chez Naturalia aussi en termes d'évolution. Et on a aussi un enjeu de montrer en interne les parcours possibles pour que globalement, on ne s'interdise rien. En fait, c'est ça vraiment le message. C'est se dire, chez Naturalia, on peut rentrer vendeur et on peut, in fine, devenir notre directrice marketing, Sidonie, qui m'accompagne aujourd'hui et qui est membre du CODIR aujourd'hui et qui a évolué pendant 15 ans chez Naturalia.
Donc le retail, la boutique peut être une porte d'entrée.
Exactement.
Vers d'autres métiers.
Tout à fait.
Et sur le retail, le service client, mais est-ce qu'il y a des points forts ou pas, des talents, c'est quoi le talent que vous recherchez aujourd'hui ?
On cherche de la curiosité, du goût pour apprendre et apprendre nos produits, apprendre nos engagements pour pouvoir ensuite servir le client, le conseiller in fine, et puis petit à petit, pourquoi pas apprendre de nouveaux métiers. On s'appuie aussi beaucoup sur des parcours de formation externes pour pouvoir faire diplômer nos collaborateurs pour accéder à tel et tel métier. Mais certains des profils que vous voyez là ont commencé vendeurs, sont aujourd'hui acheteurs et Vincent prépare une formation en management également. C'est pas immédiatement une nécessité pour son poste, mais ça prépare l'avenir et c'est exactement ce que l'on fait chez Naturalia.
Ce qui veut dire que dans votre stratégie de recrutement, vous mettez quoi ? Les soft skills en avant ? Vous faites passer des tests de personnalité ? Comment ça se passe ?
Alors, on met les soft skills.
Il n'y a plus de CV ?
Il peut y avoir moins de CV et en tout cas juste quelques prérequis, mais ce que l'on va vraiment aller chercher, ce sont les soft skills. C'est le côté engagement et adéquation aux valeurs. Je réitère, c'est bien ce point-là qu'on va aller chercher. Et pour le reste, l'envie, le dynamisme, ne pas avoir peur de la polyvalence de nos postes. On est quand même dans du retail, c'est parfois dur, donc il faut être ouvert à ça, ne pas avoir peur des contraintes d'horaire, par exemple, puisqu'en magasin, pour accueillir les clients sur une amplitude horaire, bah, il faut être là tôt ou terminer tard, suivant les horaires de planning.
Mais vous faites des tests pour voir comment, parce que cette question de la valeur, elle est fondamentale dans plein d'entreprises, mais on est incapable de la vérifier au moment d'un recrutement. Il faudrait tester. Bon, là, bien sûr, vous pouvez vous séparer de quelqu'un au bout d'un mois, on se teste mutuellement, mais comment on fait pour savoir si on a les mêmes valeurs ?
Déjà, on fait confiance à nos recruteurs, puisqu'on a une équipe de 5 recruteurs en interne, dont 2 qui sont issus de la promotion interne, d'anciens responsables magasins, dont un a accepté de se prêter au jeu de la web-série, on vient de le voir. On fait confiance à leur œil, à leur savoir-faire. Et puis, on a mis en place avec l'équipe recrutement, justement, après le premier confinement, aussi un test à partir de notre vidéo de Béaba de l'accueil. On a une vidéo de formation sur l'accueil client chez Naturalia, où on a globalement les mauvaises pratiques et les bonnes pratiques qui sont mises en scène. Et on se sert de cette vidéo pour faire un test de mise en situation, on va dire, dans l'entretien de recrutement. C'est récent. Mais pour le reste, c'est uniquement du questionnement et du feeling dans l'approche recrutement. On va peut-être regarder sur le CV des expériences précédentes, notamment quand on va aller chercher des futurs managers. Ça peut être intéressant pour nous d'avoir eu une première expérience, par exemple en tant que manager dans la restauration, dans des milieux qui sont exigeants, avec vraiment un fort enjeu sur le management d'équipe, parce que globalement, un manager, un responsable magasin, c'est lui qui tient son magasin.
Mais vous êtes assez honnête sur le fait que c'est dur, quoi. La boutique, c'est dur, les horaires, la charge de travail,
exactement.
Pas se quoi.
Oui, et c'est un leitmotiv que de bien, dans l'équipe recrutement, de bien valider avec les candidats qu'ils ont compris que les conditions de travail dans l'enseigne, comme dans d'autres enseignes du retail, et ça va être ça. Et qu'il n'y ait pas de surprise, puisque derrière, si il y a...
Il faut montrer le métier tel qu'il est.
Oui, c'est ça. Mmh. Parce que de toute façon, quoi qu'on fasse, la réalité, elle sera opérationnelle dès le jour de l'intégration en magasin.
Ce qui veut dire que la carotte, c'est l'évolution de carrière. C'est de dire, ok, c'est dur aujourd'hui, mais peut-être qu'à un moment donné...
C'est l'apprentissage de tout ce que l'on va pouvoir leur fournir comme apprentissage produit sur les univers métiers. Et pour ceux qui sont intéressés, parce que tout le monde n'est pas forcément intéressé par l'évolution, mais oui, ça peut aller très vite chez nous.
Vous voyez, comme vous êtes, on dit la bio maintenant, tout le monde dit la bio.
Alors, on dit le bio,
c'est fini,
la
on dit la bio.
Exactement.
On dit la bio, donc est-ce que vous voyez monter un engouement global chez un certain nombre de candidats? Vous avez plus de candidats qu'avant du fait d'être dans la bio?
Alors, on reconnaît des candidats qui, notamment dans la génération Y, Z maintenant, qui sont sensibles sur les postes sièges, par exemple. On me pose systématiquement la question de la réalité, des valeurs, des engagements de l'enseigne et du bien vivre ensemble chez Naturalia. C'est une question qui revient aussi assez souvent. Donc oui, je pense que nos candidats sont sensibles à ce côté engagement.
L'entreprise à mission, c'est un enjeu d'attractivité.
Exactement, tout à fait.
Les candidats vous posent cette question.
Les candidats nous disent qu'ils sont venus parce que pour eux, travailler pour une enseigne qui fait sens, c'est important pour eux et pour leur épanouissement personnel.
Sur vos vidéos internes, vous avez eu du mal à convaincre les salariés de tourner ou pas? C'est sur le volontariat ou...
Oui, c'était sur la base du volontariat. On a été chercher des collaborateurs avec un parcours atypique que l'on souhaitait mettre en avant. On a dû parfois les convaincre parce que c'est pas toujours évident de pouvoir de se mettre en lumière déjà, une première chose, et puis de faire l'exercice devant une caméra. Tout le monde n'est pas...
Donc il a fallu convaincre quand même.
Exactement.
On va faire le petit quiz RH. Vous me dites stop ou encore. Est-ce qu'on continue avec le reporting?
Dans une moindre mesure. Mais oui, ça reste nécessaire pour évaluer son activité.
Les horaires, stop ou encore?
Alors dans le retail, malheureusement...
Malheureusement, il y a une ouverture.
Voilà,
fermeture, ouverture, il faut respecter. Les tests de personnalité?
Je ne suis pas fan.
Les feedbacks? Tout le monde fait des feedbacks aujourd'hui.
C'est important. Nous, on vient de refaire notre formation management. Le feedback fait partie des fondamentaux du management.
Les Zooms et les Teams, vous en avez marre ou pas?
On a testé plusieurs formats. Globalement, on est obligé de vivre avec, je pense, maintenant.
Les team building?
Important, mais malheureusement, on a dû trouver des alternatives. Donc nous, on a fait du crossfit par Zoom, par exemple.
Du crossfit? Donc vous avez couru tous ensemble sur Zoom?
Alors non, on a fait des exercices en salle, mais dans notre salon fermé, mais oui, sur Zoom.
Donc il y a toujours du team building.
Donc il y en a, mais c'est des formes différentes.
Les Chief Happiness Officer, vous en avez ou pas?
Non, on n'en a pas, et personnellement, je ne suis pas non plus une grande adepte de cette solution. Alors déjà, compte tenu de notre taille, c'est pas vraiment d'actualité, mais je pense que c'est le sujet de tout le monde, le bonheur au bureau, ça peut être le sujet de tout le monde, et surtout repartir des initiatives des salariés, c'est ce qui est le plus précieux. À mon sens.
Les baby-foot?
Les baby-foot...
Dans la réserve au fond de la boutique, non? Il n'y en a pas?
On a un jeu d'arcade, nous.
Ah bon. LinkedIn, vous y êtes?
Oui.
Vous y êtes très présente?
Je fais attention à répondre systématiquement aux sollicitations et je vais moi-même chercher également des candidats.
Donc vous sourcez?
Oui.
La méthode agile?
Alors, c'est notre quotidien. On essaye de fonctionner en méthode agile avec des circuits de décision courts et une rapidité de mise en œuvre.
Merci beaucoup, Mélodie Le Barbonchon, d'avoir été avec nous, DRH de Naturalia. On va passer à notre deuxième partie d'émission. On va essayer de faire mieux ensemble.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. Better Together.
Et on va prendre un cours de motivation avec Edgar Gros-Piron, le boss des boss. Bonjour Edgar.
Bonjour Laure.
Alors, triple champion olympique, triple champion du monde de ski de boss, mais désormais vous êtes consultant pour les entreprises, vous faites des conférences et aussi des masterclass. Alors vous n'êtes pas du tout un nouveau venu dans le métier, vous faites ça depuis plusieurs années, déjà plus de 1000 conférences. C'est quoi exactement ce que vous demandent notamment les entreprises, parce que c'est ce qui nous intéresse ici? Qu'est-ce qu'ils veulent savoir quand ils vous invitent?
En ce moment, comment rebondir après une crise? La crise a frappé, hein, on est encore dedans, mais en ce moment, c'est la question, c'est ça. Comment rebondir quand nos chiffres d'affaires s'écroulent, quand nos business sont amputés par des mesures de confinement, etc. Et moi, ce que je porte comme discours, c'est de dire le meilleur moyen, la manière peut-être la plus efficace d'affronter, de traverser des crises, c'est d'avoir une motivation très élevée. Parce que c'est cette motivation qui va nous permettre de trouver des solutions, de voir les choses de manière plus rationnelle qu'émotionnelle, et qui va nous permettre d'avancer et de sortir avec non pas des solutions miracles, parce que ça n'existe pas dans les solutions de crise, mais des solutions qui vont derrière être appliquées de manière avec un engagement et qui va faire la différence à la sortie.
Il y a une obsession chez l'entreprise de deux réussites, celle du sportif et celle de l'armée. On le voit dans l'ensemble des conférences, il y a toujours soit un sportif, soit un ancien commando de l'armée. Comment on peut réussir à aller chercher des clés de réussite alors qu'en fait, dans le travail, il n'y a pas justement cette passion chez tout le monde? Comment on fait pour insuffler? Vous dites qu'il faut aller chercher l'envie, mais ce n'est pas toujours transposable.
Alors, sur beaucoup de plans, c'est très transposable. Parce que le parallèle qu'on peut faire entre le sport et l'entreprise, c'est qu'on est dans des aventures humaines qui doivent tendre vers de la performance. Donc rien que ça, c'est totalement transposable. Ensuite, aller chercher, trouver l'envie, c'est totalement transposable parce que cette envie, ce désir, cette motivation, elle est liée à l'ambition qu'on peut avoir. Et des gens qui ont de l'ambition dans les entreprises, ça ne se situe pas au niveau des patrons, ça peut se situer aussi au niveau des collaborateurs, à n'importe quel niveau. Des gens qui vont trouver du plaisir à faire ce qu'ils font, pareil, ça peut se situer à tous les niveaux. Et rien que pour prendre l'ambition et le plaisir, c'est deux leviers de motivation importants qui vont permettre aux gens d'être performants.
Le ski, c'est un sport individuel. Qu'est-ce que vous leur dites de spécifique? Vous dites, ok, moi je suis tout seul, j'étais tout seul dans ma discipline, mais quand même, il fallait que je parle aux autres, il fallait qu'on trouve un collectif. Vous avez des équipes de France quand même de
ouais,
ski.
Oui, ouais, bien sûr. Et c'est justement là que c'est intéressant, c'est que le sport individuel, dans un sport individuel, on ne gagne pas tout seul. Moi, ça a été mon cas, c'est-à-dire que j'étais seul entre un portillon de départ et une ligne d'arrivée, comme un commercial peut être seul face à son client. Mais s'il est là avec des bons outils, avec une bonne technique, des bonnes méthodes, avec des bons arguments, c'est parce qu'il a travaillé en amont avec le marketing, comme moi j'ai travaillé en amont avec mes entraîneurs, avec mes préparateurs physiques, et à faire en sorte que j'arrive dans le portillon de départ avec un potentiel qui me permette de délivrer une bonne prestation, une belle performance, qui soit conforme à ce que je vise.
Et vous êtes capable, vous, aujourd'hui, avec du recul, de savoir exactement sur telle victoire, je sais pourquoi j'ai été bon, là je sais à tel endroit pourquoi j'ai été mauvais?
Oui, heureusement, parce que j'ai le recul. Et c'est là la question clé, c'est... Quand on est dans l'action, on n'a pas le recul, pas nécessairement le recul. La prise de recul est essentielle. Et c'est pour ça qu'on fait appel à des conférenciers. C'est pour ça que moi, on m'appelle. C'est parce qu'on a besoin d'avoir un peu de recul, de prendre un peu de hauteur par rapport à ce qu'on fait pour mieux comprendre comment on le fait et mieux s'améliorer.
Et les managers là, que vous voyez, vous les trouvez dans quel état? Vous me dites, ça marche très bien sur la question de la crise. Il n'y a pas que ça, en fait, aussi pérenniser ses performances, partir à la conquête de ses rêves, changer de vie carrément. Mais sur la question de la crise, vous trouvez que les managers ils ont peur, ils ne savent pas où ils vont ou finalement, ils aiment la crise?
En fait, il y a deux choses. Il y a le contexte et aujourd'hui, le gouvernement nous offre une visibilité à un mois, deux mois et guère plus loin. Et donc, il y a ceux qui se soumettent à ça et se disent, on navigue à vue et puis on est brinque-ballé par le contexte. Et puis, il y a ceux qui se disent, peu importe le contexte, c'est moi qui vais définir les ambitions, c'est moi qui vais définir les programmes, qui vais donner le tempo. Et donc, ils s'affranchissent du contexte, ceux-là, et ils vont composer avec, évidemment, ce que le gouvernement ou d'autres, ce que le marché offre, et ils vont imposer leur vision, et ils vont utiliser les obstacles du quotidien pour se réinventer, en fait. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que dans des situations de crise, que l'on subit, qu'on soit manager, dirigeant, sportif, salarié, ces situations, on les subit, mais il y en a qui vont agir sur les conséquences et ils vont travailler à partir de là pour essayer de sortir le plus fort possible et le plus vite possible de la crise.
Il y a un rapport intéressant à faire sur la concurrence en tant que sportif de haut niveau et dans une entreprise. À quoi ça sert de se battre si finalement on est tout seul à être la star de sa discipline? C'est un peu pareil dans l'entreprise. Il n'y a qu'un seul Amazon, il n'y a qu'un seul Airbnb. Tous les autres, c'est des secondes zones. Qu'est-ce que vous leur dites? Est-ce qu'il faut regarder les concurrents avec bienveillance ou les regarder comme des ennemis? C'est quoi votre message?
Alors, la compétition voudrait que c'est un combat et il faut écraser les autres. Et la concurrence, pour moi, la performance, la concurrence, c'est plutôt une quête d'amélioration de soi. Et je suis plutôt pas grand fan de la compétition et plutôt fan et passionné par la performance. C'est-à-dire que moi, je trouve que l'amélioration de soi, de ses compétences, de ses qualités, de son savoir-être est absolument essentielle. Après, ce qui légitime une performance, c'est la concurrence. Parce qu'évidemment, si on est tout seul...
C'est peut-être qu'on se plante aussi.
Non, mais ça... si on est tout seul et que ça marche...
Mais avoir des concurrents, ce n'est pas grave. Dans un business, c'est plutôt...
C'est à peu près normal.
Hein, c'est un marché.
On est dans un monde de compétition. On ne peut pas non plus refuser ça. On est en permanence en compétition, que ce soit les notes à l'école, que ce soit sur un job, sur un poste, pour un recrutement, que ce soit dans l'action face à un client. Enfin, voilà, on fait des appels d'offres, etc. On est toujours en concurrence, mis en concurrence, et donc on est toujours en compétition. Et c'est là que finalement, ça dépend le regard qu'on porte sur ses concurrents.
Par exemple, vous avez de plus en plus de concurrents. Il y a de plus en plus de conférenciers anciens sportifs. Vous dites c'est une bonne nouvelle pour l'ensemble du secteur ou vous dites mince, si on en prend un autre, c'est moins
bon
pour moi.
Non, c'est une bonne nouvelle. Parce que le métier fait que c'est une bonne nouvelle. C'est un métier de one shot. Quand vous allez tirer une cartouche, vous n'allez pas la réutiliser l'année d'après. Oui. Du coup, quand vous êtes conférencier, si vous avez une offre importante autour de vous, s'il y a beaucoup de conférenciers de qualité, parce que ça, c'est quand même important, ben vous n'allez pas décourager votre marché, au contraire, vous allez l'encourager à faire appel à des conférenciers. Du coup, c'est plutôt une bonne chose, c'est plutôt une bonne nouvelle dans mon métier.
Est-ce que la conférence changer de vie a beaucoup de succès ?
Alors, dans l'entreprise, la concurrence, cette conférence-là, c'est la conduite du changement, en fait. À titre individuel, et ça, c'est les masterclass, c'est plutôt changer de vie, ou en tout cas se réaligner dans sa vie. Et puis, dans l'entreprise, c'est effectivement comment faire en sorte d'aborder les changements en évitant les résistances.
Merci beaucoup Edgar Gros-Piron d'avoir été avec nous. Si vous voulez avoir Edgar Gros-Piron en conférencier, je vous invite à aller voir son site internet. C'est digne d'un grand groupe. Hein. C'est ultra complet. Vous verrez tout ce qu'il peut faire, tout le panel de ses activités. Merci d'être venu nous voir dans Happy Boulot Le Mag. Nous, on va parler télétravail.
BFM Business, Happy Boulot Le Mag, Business Case.
Cette semaine, les partenaires sociaux discutent avec le patronat pour encadrer le télétravail. Qui finance quoi ? Est-ce que c'est l'employeur qui doit payer l'électricité, le bureau, comment on gère les arrêts maladie, le rythme, etc. L'objectif, c'est d'organiser le télétravail en mode déconfiné, car évidemment, personne ne souhaite 100% de télétravail. Mais quand même, il faut s'organiser chez soi. Alors, comment on fait quand on a un espace tout petit ? Est-ce qu'on peut faire mieux qu'une table à repasser avec une chaise ? C'est la question qu'on va poser à Aïssa Laroussi, fondateur et CEO d'Enki, qui propose des solutions d'ameublement. Est-ce que vous avez une super idée pour nous et pas trop chère ?
Alors bonjour, Enki, on aménage donc les espaces de bureaux, mais ici donc spécifiquement suite à la crise sanitaire, on a lancé une offre pour le home office et donc on vient moyennant un abonnement mensuel aménager les espaces des télétravailleurs à domicile et donc à partir de 39€ par mois.
Alors vous faites quoi pour 39€ ?
Alors pour 39€, c'est un petit peu varié, donc ça va dépendre un petit peu de sa sélection personnelle, mais on peut très bien avoir un bureau, une chaise de bureau confortable et ergonomique, une petite lampe d'appoint, voilà.
Mais alors, ça veut dire qu'au bout de quoi ? De 3 mois, je peux arrêter mon abonnement, je vous les rends, ça dépend de mes besoins, ça marche comment ?
Alors en fait, nous, on est vraiment une entreprise, donc on s'inscrit vraiment dans une démarche aussi d'éco-responsabilité et de durabilité. Donc, on n'a pas vocation à vraiment promouvoir le changement excessif. Donc, l'idée, c'est plutôt de se dire, en fait, au lieu d'acheter du mobilier qui va être trop bon marché, qui va être peu durable, etc., et dont on va se débarrasser, c'est plutôt privilégier un mobilier qui va être de qualité, qui va être durable, mais ne pas avoir la contrainte de devoir tout de suite débourser beaucoup d'argent. Donc, on va plutôt proposer du mobilier d'une certaine valeur, mais qui, grâce à ce système d'abonnement, permet, je dirais, d'éviter d'avoir une grosse dépense en une fois.
Donc, vous venez chez moi, vous allez regarder comment c'est, m'aider à mettre en place un poste de travail, ça fonctionne comment ?
Alors, pour l'instant, donc, on a mis en place un configurateur en ligne, donc qui permet déjà d'avoir une vision un petit peu des différents produits qu'on propose. Et puis, effectivement, au besoin, si vous souhaitez être accompagné, alors je suis pas sûr que pour l'instant on pourra se déplacer chez tout le monde parce que la demande est forte. Mais en tout cas, on est vraiment disponible, on est là pour conseiller, accompagner et proposer des solutions qui correspondent aux besoins.
Donc ergonomique, ça veut dire quelque chose qui me fait pas mal au dos, donc une table, une chaise, j'ai besoin de rien d'autre en fait.
Ça dépend un petit peu, ça peut aussi en effet. Donc l'idée, en fait, nous ce qu'on veut, c'est déjà forcément, quand on va prendre du mobilier pour télétravailler, ben, je crois que la première chose qu'on va chercher, c'est le confort et l'ergonomie. Et donc, en fait, ce qu'on a essayé de faire dans notre sélection de mobilier, c'est vraiment d'allier en fait le côté ergonomique, le côté confort, et le côté aussi design et le fait que voilà, on a aussi pas envie finalement que le résultat soit qu'on amène le bureau à la maison, mais plutôt d'avoir quelque chose qui va bien se marier avec la décoration intérieure, avec son espace personnel.
Aïssa Laroussi, est-ce que vous visez le marché B2C, c'est-à-dire directement celui qui a besoin d'un bureau chez lui, ou vous visez plutôt les DRH et proposer aux entreprises une offre complète qu'elles, après, elles vont partager avec leurs salariés?
Ouais. Alors pour l'instant, on a vraiment les deux. Donc on a des entreprises qui, en effet, prennent ça en main et donc mettent à disposition une solution pour leurs salariés. Et puis on va avoir des personnes, des particuliers, des indépendants, etc., qui vont utiliser notre solution pour s'aménager leur espace de télétravail.
Voilà, 39 par mois, il est possible de s'équiper avec une offre dédiée et des meubles de qualité, c'est la promesse d'Enki. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Aïssa Laroussi. C'est la fin d'Happy Boulot Le Mag. Je vous souhaite un excellent week-end sur BFM Business et à la semaine prochaine.
BFM Business, Happy Boulot Le Mag. L'émission qui vous sort de votre boîte.